nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Comme Braille ou Bottin, ce nom propre est devenu commun, bled. As-tu ton bled ? Regarde dans ton bled, sortez votre bled. Nous avons tous dit et entendu cela. Ce manuel d'orthographe, de grammaire et de conjugaison a accompagné la vie de plusieurs générations d'écoliers. Leurs auteurs, Odette et Édouard Bled, le rédigèrent au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en s'appuyant sur leur expérience d'instituteur. Dans une classe de 50 élèves, disait Édouard Bled, quand vous en avez 20 qui se trompent au même endroit, c'est qu'il y a quelque chose, une explication à donner. Odette et Édouard vouèrent leurs existences à l'école de la République et à la pédagogie. Après leur retraite, ils continuèrent de défendre inlassablement la langue française en prenant notamment position contre la réforme de l'orthographe. En 1987, toujours avec l'étroite collaboration d'Odette, Édouard Bled faisait paraître un livre de souvenirs autobiographiques intitulé « J'avais un an en 1900 ». Cette même année, il était l'invité d'Antoine Spire dans « Mémoire du siècle ». Il y livrait quelques-uns de ses souvenirs, de son enfance à Saint-Maur-des-Fossés, de sa guerre de 14, de son métier d'instituteur, de la France de l'entre-deux-guerres, de février 34 et de la montée des fascismes.
Mémoire du siècle, une émission d'Antoine Spire. Aujourd'hui, Édouard Bled. Quarante millions de Français ont appris l'orthographe dans le célèbre cours rédigé par Édouard Bled et sa femme Odette. On sait sans doute moins que ce jeune vieux monsieur est né à Saint-Maur en 1899. Dans un savoureux récit autobiographique, « J'avais un an en 1900 », il nous convie à un porte-à-porte sentimental dans les rues et les jours de son enfance, sachant faire revivre avec exactitude et émotion ceux qui l'ont entouré et qu'il a aimé, les métiers disparus, l'allumeur de réverbère, le décrotteur de rails, de tramway, et surtout les vieilles chansons. La fraîcheur se teinte de gravité lorsqu'il évoque les grandes dates de sa maturité, le cataclysme des deux guerres, et bien sûr, l'amour toujours renouvelé pour sa femme et son métier, leur métier commun, de maître d'école. L'homme reste toute sa vie l'enfant de son enfance, aime à dire Édouard Bled.
Eh bien, à cette époque-là, les meilleurs élèves des classes primaires, les instituteurs les orientaient, ils parlaient aux parents, ils disaient « Tiens, votre fils pourrait peut-être choisir le métier d'instituteur. » Et le métier d'instituteur était attirant. Je vais vous dire pourquoi. Les instituteurs étaient bien habillés. Ça, pour un enfant, c'était quelque chose de très important. Mes instituteurs étaient toujours très bien habillés. Et il y a quelque chose qui retenait mon regard, c'était leurs cravates. Ils avaient des cravates très jolies. Ils portaient des gros plastrons comme ça, quelquefois, ou alors des lavalières bleues à pois blancs. Et ça, je trouvais que c'était très joli. Et à ce moment-là, l'instituteur était considéré comme l'homme qui possède le savoir. Car autour de lui, beaucoup de gens n'avaient même pas le certificat d'études. Donc, c'était un métier qui était recherché. Et relativement, comme moi, j'étais en banlieue, les instituteurs du département de la Seine, et surtout les instituteurs de Paris, avaient des avantages très importants.
Mais quand vous étiez enfant, vous ne connaissiez pas ces avantages.
Eh bien, ceux qui me dirigeaient, qui avaient l'intention de me diriger vers cette carrière, connaissaient ces avantages. Et il y avait dans ma rue une petite épicière, Madame Bricon, qui en même temps vendait un peu de mercerie. Et j'allais chez elle, bien sûr, faire quelques commissions. Et elle me disait, Édouard, tu travailles bien, mais tu devrais être instituteur. Moi, j'ai mon fils qui est instituteur à Paris. Tu sais, il gagne bien, c'est une bonne situation. C'était très dur pour moi, vois-tu, j'étais une femme seule. Mais enfin, j'y suis arrivée maintenant, il est bien établi. Et j'ai connu le fils de cette petite épicière. Et alors, en effet, il était comme mes instituteurs, il était très bien habillé quand il venait. Alors, c'était un signe que la situation était bonne. Et puis, il y avait autre chose. Je crois que déjà j'étais attiré par les enfants. Or, si on veut faire une carrière comme instituteur ou dans l'enseignement en général, il faut aimer les enfants.
Édouard Bled, votre père était un cadre. Oui. Comment est-ce qu'il prenait cette vocation? Et comment est-ce qu'il réagissait? Pour lui, c'était quelque chose...
Tout le monde était satisfait. Pour la raison suivante, j'avais deux frères qui étaient ciseleurs, j'avais deux autres frères qui étaient orfèvres, et deux autres frères qui étaient bijoutiers joailliers. Et moi, j'étais le dernier. Et vous savez, à cette époque-là, avoir une situation avec une pension, avec une retraite, c'était quelque chose de très important. Et ma mère disait, tu es le dernier, il peut nous arriver quelque chose, n'est-ce pas? Toi, tu seras assuré d'avoir un traitement fixe, n'est-ce pas? Et tu auras, à la fin de tes années de service, tu auras une retraite. Par conséquent, tu seras à l'abri de tout. Et comme je travaillais bien en classe, je n'ai pas à me vanter, j'avais presque toujours le prix d'honneur. Donc, ma voie était toute tracée. Ma mère était très satisfaite que je sois instituteur. Par la suite, elle me disait, quand j'étais un petit peu plus grand, quand j'étais au collège, elle me disait, tu vois, Édouard, tu te marieras avec une institutrice. Et je suis sûr qu'elle sera jolie. Alors, tous les deux, vous aurez de bons traitements, vous aurez vos vacances ensemble, vous aurez des enfants et tout, vous pourrez voyager. Donc, c'était vraiment le meilleur métier que je pouvais choisir.
La sécurité, ça comptait tellement dans un foyer comme le vôtre.
La sécurité.
Vous parlez dans votre livre de bons plats économiques qui auraient été oubliés, des plats qui ne revenaient pas cher et qu'on faisait à cette époque. On avait le souci de l'économie et le souci de la sécurité?
Oui, on avait beaucoup ce souci-là. Et je dirais qu'on avait la vertu du petit sou. Car on a parlé de cette époque, de la belle époque. Pour nous, le mot belle époque n'existait pas. La belle époque, c'était pour la belle Otero, vous savez, Liliane de Pougy, pour ces filles-là qui menaient une vie très large. Mais nous, c'était la douceur de vivre. Et pourquoi la douceur de vivre? C'est parce que un sou valait un sou en 1905. En 1910, on pouvait toujours acheter la même quantité de marchandises. Donc, c'était là la sécurité. C'était beaucoup. Donc, on était tenté d'économiser pour un jour, acheter un petit lopin de terre, faire construire sur ce petit lopin de terre une maison où on aurait un jardin, on vivrait tranquille au moment de la retraite que l'on aurait pu se constituer. Il y avait autre chose qui était un élément de bonheur à ce moment-là. C'était les chansons. Les chansons, tout le monde chantait. Tout le monde chantait. La blanchisseuse, tout en poussant, évidemment, ne pouvait pas chanter à pleine voix. Mais elle chantait doucement, froufrou, en poussant le fer à repasser. Tout le monde chantait. Chez nous, le dimanche, vraiment, on se serait cru au café-concert. Et quand on chantait, il y avait quelque chose qui vous pénétrait, qui s'irradiait en nous, des vibrations qui vous donnaient le bonheur. C'était ça le bonheur, voyez-vous, de cette période.
Pourtant, il y avait des problèmes qui se présentaient dans la période. D'abord, il y avait bien sûr la menace de la guerre qui allait se profiler à l'horizon. Et puis avant la menace de la guerre, il y a eu des catastrophes climatiques. En 1909, vous racontez les inondations avec la Seine qui monte, le zouave du pont de l'Alma qui a de l'eau jusqu'à la tête.
Oui, bien sûr. Alors à Saint-Maur, la Marne est venue à déborder d'à peu près presque un kilomètre. Elle s'est arrêtée à peu près à 200 mètres de chez nous. Mais alors l'eau montait dans les puits, il fallait faire bouillir l'eau parce que nous n'avions pas l'eau de la concession, ça n'existait pas la concession d'eau. Alors il fallait boire l'eau du puits, mais notre mère faisait, tout le monde faisait bouillir son eau, et puis avec un petit fouet on aérait l'eau, on savait ça.
Il y a des gens qui ont été inondés à cette époque de façon grave.
Bien sûr, toutes les villas qui se trouvaient entre la Marne et la Boulangère étaient inondées. Il y avait un mètre, 2 mètres d'eau, non, c'était une nappe. On voyait à l'horizon comme ça, c'était que de l'eau.
Vous vous souvenez aussi, je crois, d'avoir vu des barques, non, des gens circuler en barque, non, sur la Marne.
Ah oui, bien sûr. Et alors il y avait un régiment de pontonniers qui était là. Et qui allaient chercher. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas voulu quitter leur maison. Alors il fallait les ravitailler. Alors les pontonniers les ravitaillaient. Puis alors il y avait aussi ceci, c'est qu'il y avait les pillards aussi. Il y avait, vous savez, il y a toujours des gens qui cherchent à profiter. Alors la nuit, les pontonniers faisaient des rondes, puis fait arriver à arrêter des pillards.
Ah, des pillards qui essayaient de s'emparer de ce qui restait dans les maisons abandonnées.
Oui. Et alors, c'était vraiment des catastrophes, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas d'indemnité. C'était à vous de refaire votre maison, de refaire les peintures, etc. On ne vous donnait rien.
Alors, vous racontez aussi que vos parents vous ont toujours laissé la liberté de lire, et que les livres étaient une tradition familiale qui remontait fort loin.
Mes parents, naturellement, savaient lire. Ma grand-mère, qui a vécu jusqu'à 101 ans et que j'ai bien connue puisqu'elle nous a quittés en 1936, savait lire. Et même ma grand-mère avait lu l'Émile. C'est à peine croyable parce que moi, à l'école normale, je n'ai jamais pu lire l'Émile. J'en ai lu 20 pages et puis j'ai reposé mon livre sur la table et puis je ne l'ai jamais rouvert. Non, l'Émile ne m'a jamais passionné. Eh bien, ma grand-mère avait lu l'Émile et puis elle avait lu Victor Hugo, elle avait lu et on lisait beaucoup les poètes. Alors, elle avait lu les poèmes de Lamartine. Elle aimait beaucoup Lamartine, elle aimait le lac, tout ça. Elle aimait également Alfred de Musset, les nus. Et Victor Hugo, La tristesse de l'impio, tout ça. Et j'ai d'ailleurs des ouvrages, des livraisons, parce qu'elle achetait ça en livraison. Et j'en ai de ces livraisons, je les ai eues dans ma part d'héritage.
Ces livraisons, c'était quoi? C'était des petits opuscules, en fait?
Des petits opuscules. Et il y a quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. C'était Béranger. Ah, elle aimait Béranger, elle aimait, non pas qu'elle chantait, elle ne chantait pas, mais elle aimait Béranger parce qu'elle disait, ça c'est un vrai poète. C'est un vrai poète parce que il fait des poèmes sur des petites gens, sur de petites choses. Et cela, c'est un poète qui descendait vers les gens, voyez-vous.
Et alors, votre famille vous a transmis l'amour des livres?
Eh bien, je crois que ça remonte beaucoup plus loin, parce que dans ma famille, si je remonte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, j'ai des livres qui ont appartenu à de mes ancêtres, de mes anciens, qui savaient lire. J'ai retrouvé, et je les ai, toute une liasse de journaux de la Révolution, de la période du Directoire. Mais il y en a un gros paquet. Et il y a des annotations, à la fin, ils sont reliés, mal reliés, si vous voulez. Ils sont réunis avec une ficelle. Et alors, à certains endroits, il y a une page où l'on donne des titres de livres de cette époque, et il y avait une petite croix, alors, avec un trait à la plume en dessous, ce qui fait que ces gens-là avaient lu. Ils avaient lu, oui, ils avaient lu. À la maison, il y avait des livres, et la bibliothèque n'était jamais fermée à clé, il y avait une clé, mais c'était pour le principe. Alors, moi, j'ai lu Les caquets de la couchée de Brantôme. Oh, c'était rien d'extraordinaire. C'est une femme qui vient d'accoucher, on vient la voir, et elle parle de choses différentes, n'est-ce pas, de toutes sortes de choses. Mais il y avait un livre... Faublas, c'est un livre qui a plusieurs volumes, c'est de tout petits volumes, et ils sont gelés, nous les avons toujours d'ailleurs, ils sont reliés en cuir bleu. Naturellement, moi, j'ai pris Faublas, j'ai commencé à lire Faublas, je n'ai pas été jusqu'au bout, je vous le dis. Et c'était illustré, c'est illustré, et c'est un très beau livre, je l'ai lu. Ça relate un peu l'histoire du chevalier Déon. Oui, je l'ai lu, donc, une partie. J'ai lu aussi Les lettres persanes. Ah ben ça, il y avait Les lettres persanes. Ça, je les ai lues. Je vais avoir 12 ans, peut-être, j'ai lu Les lettres persanes. Et il y avait aussi La chronique de l'œil de bœuf. Alors, La chronique de l'œil de bœuf... L'œil de bœuf, c'est une pièce à Versailles où se tenaient les courtisans et où ils parlaient de ceci, de cela, les petits potins de la cour. Et tout ça est relaté dans la chronique de l'œil de bœuf et c'est rehaussé de gravures. Et moi, j'ai feuilleté. C'est comme cela que j'ai appris que Louis XV avait reçu un coup de poignard d'un de mes Damiens qui avait été écartelé sur la place de Grève. Et puis... j'ai lu l'histoire du parc aux cerfs. Et l'histoire du parc aux cerfs, c'est tout simplement Madame de Pompadour vieillie pour conserver les faveurs du roi. Alors, elle monte un petit harem pour Louis XV. Et quand j'ai lu ça, moi je l'ai lu bien sûr, un des valets de chambre de Louis XV s'appelait Le Boeuf, et il allait... par toute la France, chercher des jeunes filles très belles. Alors on les amenait à Versailles, on les éduquait, on les parfumait, enfin tout ce que vous voulez. Et quand elles étaient à point, comme voulait Madame de Pompadour, alors on les donnait au roi, qui pendant un mois, deux mois, puis après... Il ne fallait pas évidemment que la jeune personne sût que c'était Louis XV.
Édouard Bled, ces récits historiques... si vous les avez si présents à la mémoire, c'est qu'ils vous ont été utiles? Vous les avez utilisés dans votre enseignement?
Non, la chronique de l'œil de... C'est pour Damien. Ça m'a donné le goût de la recherche et le goût de l'histoire. L'histoire, c'est en somme... c'est notre vie, l'histoire. On ne se peut pas se séparer de l'histoire. Ce qui s'est passé il y a 200 ans, nous le ressentons encore aujourd'hui. Ça, c'est sûr.
Édouard Bled, alors vous avez été jusqu'à écrire des poèmes, et à 15 ans, vous écrivez votre premier poème, vous êtes précoce dans vos lectures, Les lettres persanes à 12 ans, donc, et puis à 15 ans, vous écrivez votre poème, un poème que vous écrivez pour votre mère. Et à ce moment-là, vous avez déjà connu l'amour, avec une postière de 30 ans.
C'est-à-dire que on l'appelait la dame des postes. Oui, non pas que le mot postière fût péjoratif, mais dans le quartier, on l'appelait la dame des postes. Elle était très belle, elle était blonde, et comme disait ma mère, tiens, ça nous change un peu parce que nous n'avons que des brunes dans le quartier, et nous avons une blonde qui est belle. Elle est toujours bien habillée, et quand on a dit à ma mère que... elle était à la poste, elle a dit « alors encore mieux, parce que c'est une femme instruite ». Et en effet, Virginie était instruite.
C'est étonnant quand même pour un garçon de 15 ans d'aller avec une femme de 30 ans, non? C'était fréquent à l'époque?
Oui, mais Virginie me posait des questions. Elle m'a dit « mais quel âge as-tu, Édouard ?»« Oh, je lui dis, j'ai 15 ans. »« Voyons, Édouard, tu me dis que tu as 15 ans. » Mais tu as près d'un mètre 80, tu es carré d'épaule, tu as une petite moustache. Ne me dis pas d'histoire. Moi, je te donne 18 ans et beaucoup te donneraient 20 ans. Et moi, quand je suis avec toi, j'ai eu les mêmes livres que toi quand j'étais au collège. Eh bien, j'ai 18 ans comme toi, tu vois. Nous sommes du même âge. Voilà exactement ce que me disait Virginie.
Et alors cette postière, c'était déjà quelqu'un qui, dans le quartier, était une personnalité?
Bien, cette personne-là, je vous dis, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui travaillaient à la poste, puis je vous dis, elle était belle.
Il y avait donc, au fond, plus de considération avant la guerre de 14 pour certains métiers qui, aujourd'hui, sont moins considérés. Le métier de postière, aujourd'hui, n'est pas très bien considéré. Celui d'instituteur non plus.
Oui, elle avait une distinction. Elle aimait aussi les poètes. Alors, le lac, alors c'est le... Elvire, le temps suspend ton vol. Évidemment, c'est le poème de l'amour par excellence. Alors, elle aimait le lac. Et moi, je lisais et j'étudiais le lac au collège. Le professeur de littérature nous expliquait le lac, la vie de Lamartine, la vie amoureuse et tout. Donc, tous les deux, nous étions, si je puis dire, dans le même sillon. Je ne dirais pas la même longueur d'onde, puisqu'à cette époque-là, on ne le disait pas. Mais nous étions dans le même chemin, voyez-vous, avec la différence d'âge. Mais une femme de 30 ans... C'était une belle femme, vous savez. Nous n'étions plus au temps d'Honoré de Balzac, où la femme de 30 ans avait perdu pratiquement sa jeunesse. Non, la femme de 30 ans, c'était une femme qui était bien, bien. Voilà.
Alors on arrive ensuite à la guerre de 14-18. Alors vos frères sont mobilisés, Georges est blessé et mortellement. Jaco va revenir de la guerre et vous n'êtes mobilisé que début 1918. Vous vous souvenez de cette mobilisation ?
Alors, je suis parti au mois d'avril 1918. J'étais au Mans et nous sommes partis du Mans le 12 juillet, c'est-à-dire avoir fait 3 mois de classe. Et au début de 1918, ça allait plutôt mal pour nous. Les Allemands avaient crevé le front et étaient arrivés presque à Amiens. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le commandement unique qui a été donné au général Foch, il était général à ce moment-là, et il y a eu après la percée sur l'Aisne qui est venue jusqu'à la Marne. Et le 13 juillet, donc, j'étais parti du Mans le 12, nous nous sommes trouvés à l'arrière du front, là. Et on nous a arrêtés. On a arrêté le train et on nous a dit « Vous êtes là pour boucher les trous. Si ça va mal, on vous met tout de suite dans la bagarre. » Mais à la tête de l'armée française, il y avait un général de grand talent. C'était le général Gouraud qui avait perdu un bras aux Dardanelles. Et les Allemands ont bombardé avec tout ce qu'il pouvait avoir de canons et de munitions. Mais le général Gouraud avait fait évacuer la première ligne. Il avait fait évacuer la deuxième ligne en ne laissant que sur les flancs quelques mitrailleurs. Donc les Allemands, quand ils sont arrivés sur la première ligne, ils sont venus, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien du tout. Les tranchées étaient complètement bouleversées. Ils ont cru que les soldats français étaient dessous. Ils ont mis le fusil à la bretelle. Ils sont allés jusqu'à la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'était pareil. Bon, ils ont continué. Quand ils sont arrivés sur la troisième ligne, alors là, il y avait les régiments français, tous les canons français qui leur sont tombés dessus, et les Allemands ont été obligés de repasser la Marne. Parce qu'ils pensaient prendre Paris par le sud, contourner la Marne, le Paris par le sud. Ils n'y sont pas arrivés. Alors à partir de ce moment-là, ça n'a pas été la débandade de l'armée allemande, mais ils ont reculé, d'autant plus que sur les flancs de cette grande poche, il y avait les Américains qui était au Bois-Bello, il y avait le général Mangin qui pressait de chaque côté, ce qui fait que les Allemands, à la fin octobre, ils étaient aux frontières. Puis alors on a attaqué de tout partout, et les Allemands étaient obligés de repartir, et c'était l'armistice.
Édouard Bled, vous écrivez dans votre livre, « J'avais un an en 1900 », que l'armistice, c'est un souvenir inoubliable pour vous.
Oui, c'est un souvenir inoubliable, inoubliable pour beaucoup de Français. À ce moment-là, j'étais dans un petit village de Champagne. Et il y a un clairon qui a sonné à 11h aussi. Il y a la petite cloche, la chapelle qui a sonné. Alors, Tout le monde était content parce que c'était la fin du massacre. On pensait retrouver les siens. Mais il y avait ceux qui avaient perdu quelqu'un à la guerre. Alors il y avait des maisons qui avaient les volets fermés parce qu'à l'intérieur, il y avait des gens qui avaient une grande douleur d'avoir perdu un être cher. Alors ceux-là n'étaient pas sortis de leur maison. Mais tous les autres, alors, chantaient le soir. Il y a eu une grande fête. Il y avait des baraquements qu'on appelait YMCA. Et ça avait été envoyé par les Américains. Et alors là, il y avait des coopératives où l'on pouvait venir consommer. Et puis une grande salle où on pouvait jouer pour chanter. Alors on a monté une estrade et alors tout le monde a chanté. Moi, j'ai chanté beaucoup parce que je chantais. Et puis il y a des copains qui ont... On récitait des poèmes, toutes sortes de choses. Alors on a passé vraiment une bonne journée. Et d'autant plus qu'il y avait un menu qui était vraiment soigné. Et Clémenceau avait envoyé des quantités de poulets. Et nous avions droit à un quart de poulet. Et qu'on se figure bien ce que représentait le poulet à cette époque-là. On ne faisait pas attention au beefsteak frites dans ce temps-là. Oh, c'était le plat courant. Mais le poulet, alors là, c'était le plat du dimanche. Alors, un quart de poulet, une bouteille de Bordeaux pour deux, je crois, et puis une bouteille de champagne pour quatre. Voilà le menu de l'armistice de tous les soldats français. Alors là, cette journée, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, à Paris, c'était un enthousiasme fou. Mais nous, dans le village où nous étions, on a passé une bonne journée.
Alors vous racontez que tout a commencé à changer après la guerre et après cet armistice. Vous expliquez par exemple que les femmes ont changé d'apparence, que leurs robes étaient plus courtes, elles n'avaient plus de corsets, plus de bottines, et les cheveux coupés. Et vous citez cette fameuse chanson « Elle s'était fait couper les cheveux »,
oui,
qui est une chanson de cette époque.
Oui, par la force des choses. Tous les hommes sont partis sur le front et on a donc appelé les femmes. Les femmes sont venues travailler dans les usines. Comment voulez-vous que le matin, quand elles partaient, qu'elles puissent lasser leur corset, qu'elles mettent des jupes jusqu'à la cheville, qu'elles aient des grands cheveux qui leur portent dans le dos et qu'elles nattent. Bon, donc, c'est parti de là, par la nécessité. La nécessité, alors... Les robes se sont raccourcies, les cheveux ont été coupés à la garçonne et à la Jeanne d'Arc. C'était l'un ou l'autre, c'est à peu près pareil. Mais enfin, à la Jeanne d'Arc, il y avait une petite frange là, n'est-ce pas? Tandis que la garçonne, il n'y en avait pas. Et donc, pas de corset, des robes plus courtes, des cheveux coupés... Voilà. Pensez qu'il y a des femmes qui ont conduit le métro. Moi, j'ai vu des femmes qui conduisaient le métro, qui conduisaient des autobus. Maintenant, on ne voit pas de femmes conduire le métro. Mais c'est pas rare de voir des femmes qui conduisent les autobus. Bon, ben, dans ce temps-là, il y en a eu. C'était curieux. Alors, il y en a qui ont remplacé les hommes dans les bureaux. Mais dans les usines, il y en avait aussi beaucoup. On a dit qu'il y avait eu près d'un million de femmes qui ont travaillé. Alors... Ça a été le commencement de l'émancipation de la femme. Les femmes avaient une certaine liberté, donc cette liberté s'est affirmée, non pas dans les lois, parce que les lois qui ont libéré la femme sont venues
beaucoup plus tard.
Après, c'est De Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes, voyez donc, c'est en 1944. Bon. Mais il y avait quelque chose qui marchait, il fallait que ça bougeait, et ça a bougé à partir de là.
Alors, votre premier poste est à la campagne, dans un village de Brie. Vous vous souvenez de ce premier poste?
Ah, si, je me rappelle ce poste. Je me rappelle ce poste pour beaucoup de raisons. C'est que l'école était presque une masure. Quand je suis arrivé, les instituteurs étaient logés. Le directeur m'a conduit, alors on montait par une échelle de meunier, et il a poussé la porte, bon... Quand j'ai voulu rentrer, paf, j'ai reçu un choc, car le plafond était tellement bas que mon chapeau m'est entré jusqu'aux yeux. Et alors, évidemment, j'ai dit au directeur, j'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, je ne pourrai jamais habiter là, à moins que je rentre à quatre pattes. Alors, je vais aller à l'auberge. Monsieur Blett, vous allez à l'auberge? Mais ça ne se fait pas, l'instituteur. Mais je vais prendre pension à l'auberge, je ne peux pas aller ailleurs. D'autant plus que cet appartement qui avait, je ne sais pas moi, 1m80 de hauteur, était... Le papier était en luc, c'était pas possible. Alors voilà comment. Alors, mais j'avais des élèves extraordinaires. J'avais trois divisions. J'avais 15 élèves à qui j'apprenais à lire, 15 élèves au cours élémentaire, et puis encore 15 élèves pour le cours moyen première année. Et je me suis bien. Vraiment, j'étais bien avec ces gamins-là, parce que c'était de petits paysans, et ils m'ont appris des choses extraordinaires. Moi, qui avais un grand jardin, la banlieue, à ce moment-là, était à la fois la ville et la campagne, mais j'étais plutôt vers la campagne. Alors, dans mon jardin, il y avait des beaux oiseaux, il y avait beaucoup de fleurs, mais il y avait des choses que j'ignorais, et tous ces gosses-là m'ont appris des choses sur les oiseaux, sur les insectes, sur les plantes qui poussaient dans les champs. Tout ça, ils m'ont appris. Et le samedi, ils étaient vraiment curieux d'apprendre. Alors moi, je leur racontais des histoires de Paris, je leur racontais le métro, la tour Eiffel, le Panthéon. Ils n'avaient jamais vu ça, ils n'étaient pas jamais allés à Paris, ces enfants-là.
Alors votre poste ensuite, c'est l'île Saint-Louis. Et ce qui m'a frappé dans ce que vous racontez de votre enseignement dans l'île Saint-Louis, c'est que tous les samedis, vous faisiez une revue de presse.
Oui.
C'est pas habituel, ça, de faire une revue de presse pour les élèves.
Et justement, dans ma classe, il y avait deux boîtes. Il y avait la boîte aux bonnes actions et il y avait la boîte où les élèves mettaient la boîte aux idées. Bon. En plus, lorsque les élèves avaient trouvé dans un journal un article d'actualité, il l'apportait et on le commentait en classe. Évidemment, ce n'était pas de l'actualité politique. Mais, par exemple, il y a eu une année, un gardien de phare qui est mort. Et il était en pleine mer. Bon, et c'est sa femme et ses jeunes enfants qui ont continué à faire marcher le phare. Il fallait tourner des choses toute la nuit, et après, ils ont eu du secours, mais le pauvre gardien de phare était mort. Alors, on avait commenté cela, et je vous cite ça comme autre chose, comme par exemple les étapes du Tour de France, des choses comme ça. Il y avait aussi, à ce moment-là, les raids d'aviation, Paris-Saïgon, il y a eu l'oiseau blanc qui s'est abîmé dans l'océan. Alors, on commentait tout cela. Et puis alors, il y avait les idées, il y avait des gamins qui avaient des idées pour faire un travail, pour faire ceci, pour cela, la boîte aux bonnes actions, venir en aide à quelqu'un. Donc je vous assure qu'il y avait beaucoup de vie, c'était pas des élèves qui avaient les bras croisés et qui restaient comme ça, immobiles, non, ce n'était pas cela. Alors, c'est ça en effet, les enfants étaient mêlés à l'actualité.
Alors, en 1927, vous parlez de trois faits. Vous parlez d'une part du premier film parlant, qui vous a frappé, apparemment. Et puis ensuite, de l'apparition des passages cloutés, qui protégeaient les piétons contre les voitures. Et puis de la construction de la ligne Maginot. Alors, c'est bizarre, oui. Vous avez retenu ces trois faits.
Oui, parce que lorsque les gens traversaient les rues à Paris, alors évidemment, il y avait l'agent de police avec son bâton blanc. Et il y a un agent de police qui était très renommé. C'était celui de la Porte Saint-Denis qui avait une barbe qui lui tombait presque jusqu'à la ceinture. Et il avait un mouvement élégant, vous savez, comme si c'était un chef d'orchestre. Là. Alors, il y avait les touristes venaient voir, c'était une attraction, on allait le voir. Alors, il faisait arrêter les voitures avec son bâton. Alors, je crois que c'est Cap qui était... Je crois que c'est lui qui était préfet de police. Et on a mis les premiers passage clouté. Et puis alors, un peu plus tard, il y a eu évidemment les feux qui protégeaient les passages cloutés. Alors, pour le premier film parlant, oui, bien sûr, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le cinéma par lui-même a été une chose extraordinaire. Ça a changé la vie de tout. Et ça en a donné un coup au théâtre, déjà, à ce moment-là, parce que les gens allaient au cinéma, ça coûtait un peu moins cher. Et puis, alors, il y avait les actualités. Ah, ben là, il y avait les actualités. Et puis, il y avait de la musique. Généralement, on donnait deux films. Et alors, à l'entracte, il y avait une attraction. Il y avait un acrobate ou un prestidigitateur ou un chanteur. Alors, c'était vraiment, quand on allait au cinéma, c'était vraiment une bonne après-midi ou alors une bonne soirée, comme vous voulez.
C'était quelque chose que vous évoquiez avec vos élèves ?
Mes élèves avaient un journal. Un journal, nous n'avions pas l'imprimerie. Nous n'avons pas l'imprimerie parce que d'abord, nous n'avions pas de place. Pensez que j'ai eu jusqu'à 51 élèves dans ma classe. Il n'y avait pas un décimètre carré pour mettre quoi que ce soit. Alors, ils avaient un journal qu'ils rédigeaient eux-mêmes. Ils faisaient leur journal, ils faisaient des caricatures, ils faisaient des articles sur le Tour de France, sur tout ce que vous voulez, le football, tout, un film, un raid d'aviation. Il y avait un article. Ça s'appelait « Paris Journal ». Alors, ils le tiraient à la polycopie. Et c'est pour vous montrer qu'il y avait des choses qui avaient bougé dans la pédagogie, mais qui avaient bougé, qui apportaient la fantaisie et qui apportaient une certaine joie. Mais cette joie reposait sur quelque chose de solide. Car les élèves, pour pouvoir rédiger, il fallait qu'ils aient une bonne orthographe, il fallait qu'ils aient un bon style. Or, ils avaient appris par les autres exercices.
Alors, et la construction de la ligne Maginot ?
Alors, la construction de la ligne Maginot, il y avait à ce moment-là un ministre des Finances, et il avait fait des économies, des milliards et des milliards, et on s'est dit qu'on pourrait faire une ligne qui protégerait la France. Qui protégerait la France, parce que, vous voyez, on avait déjà parlé de Hitler. Hitler s'était déjà manifesté. Bon, il y avait un rapprochement avec Stresemann, Briand, tout cela. Il y avait le pacte Briand-Kellogg pour mettre la guerre hors la loi. Mais il y avait quand même, on sait bien que les Allemands étaient revanchards. Alors, Maginot, qui était un grand mutilé de la guerre 14-18, Maginot avait dit, il y a de l'argent, profitons-en, faisons une ligne fortifiée qui était formidable, formidable malheureusement. Les Belges n'ont pas voulu qu'elle soit continuée jusqu'à la mer du Nord. Maintenant, on dit, mais enfin, c'était prévisible, on n'a pas fait la ligne jusqu'à la mer du Nord, les Allemands passeraient encore par là. Mais à ce moment-là, beaucoup le pensaient. Mais les Belges ne voulaient pas de... Bon, alors les Allemands sont passés par là. Sinon, les Allemands ne seraient certainement jamais passés.
Alors tout ça arrive à un moment où la crise menace la France, une crise économique sans précédent. C'est le contre-coup de la crise de 1929 en Amérique. Oui. On est en 1932. Vous décrivez une très grande misère en France à cette époque. La crise, vous l'avez ressentie à travers vos élèves, et pas seulement à travers vos élèves.
Mais nous, personnellement, nous avions un traitement fixe... Nous l'avons ressenti, et je l'ai ressenti aussi parmi mes frères, parce que tous mes frères, comme je vous l'ai dit, étaient des artisans d'art. Alors, la ciselure, c'est un métier qui a disparu à ce moment-là. L'orfèvrerie, la même chose. Il n'y en a qu'un qui a survécu, c'est la bijouterie joaillerie, parce que c'est un travail, les beaux travaux se font à la main. Mais... À ce moment-là, comme c'était la crise, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se faisaient faire des bijoux. Alors tous mes frères ont été obligés de changer de métier. Et c'est ce que j'ai souvent raconté à mes élèves, c'est que mes frères ayant eu une instruction très importante, voyez-vous, ils savaient bien écrire sans faute, ils savaient bien calculer, etc., ils ont pu se recaser dans certaines administrations. Et donc, ils sont arrivés à surmonter cette crise. Mais chez mes élèves, bien sûr, beaucoup d'enfants qui ne mangeaient certainement pas toujours à leur faim. Surtout que les indemnités au chômage pratiquement n'existaient pas. Alors on donnait des bons à la mairie, les enfants faisaient un bon repas à la cantine, c'était toujours ça de prix. Mais c'était une époque qui était difficile.
Vous étiez directeur de l'école, vous saviez bien quelles étaient les conditions de vie de ces
gosses.
Ah,
je les connaissais bien, oui.
Vous les connaissiez presque tous par leur prénom.
Je connaissais jusqu'à leur prénom, je connaissais tous mes élèves jusqu'à leur prénom. Et voilà, à l'occasion de ce livre, il y a des élèves qui nous ont écrit, et lorsqu'ils écrivent, ils disent « on vous appelait Papa Bled ». C'est vrai parce que les enfants que nous avons enseignés, nous les avons enseignés comme si c'était nos propres enfants. Nous nous occupions de ce qui se passait chez eux, s'il y avait un malheur, s'il y avait une maladie. Nous étions là pour les consoler. Quelquefois, on faisait une petite quête. Enfin, on essayait de, on donnait des renseignements pour avoir ceci, pour avoir cela. Alors, nous faisions partie de la famille des élèves. En somme, nous accomplissions une mission que les parents ne pouvaient pas remplir. Mais nous étions un morceau de la famille.
Alors, Édouard Bled, la crise couvait en France, mais elle couvait en toute l'Europe. Et cette crise annonçait en même temps la montée du fascisme en Allemagne et en Italie.
Bien,
et vous avez
oui.
été très sensible.
Ah
vous,
bah, il y a eu, bien sûr, il y a eu le 6 février 1934. Alors, là, ce jour-là, c'était le jour où j'ai été inspecté. Il me fallait 3,18 pour pouvoir être inscrit au tableau des candidats à la direction d'école à Paris. Il me fallait encore un troisième 18. Alors, l'inspecteur est venu me voir ce jour-là. Et quand il est arrivé, il m'a dit « Monsieur Bled, comme je suis bien dans votre classe, comme je suis bien, si vous saviez, nous vivons sous une chape de plomb. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Mais au moins, là, je suis détendu avec vous. » Et en effet, quand il est parti. Moi, ma classe, j'ai gardé mes élèves jusqu'à 5h30. Et quand il est parti à 5h30, et que je l'ai reconduit à la porte, il faisait nuit déjà, et les élèves m'avaient dit, car j'avais beaucoup d'élèves de la garde républicaine du boulevard Henri IV et de Schomberg, et ils savaient que leur père irait sur la place de la Concorde. Alors, il y en avait qui étaient à cheval. Et quand nous sommes sortis le soir, on aurait pu croire que c'était une ville morte. Il n'y avait personne dans les rues que nous, les élèves qui partaient, moi qui habitais rue du Petit Mus, qui était pas loin du boulevard Henri IV, et les élèves qui rentraient chez eux, à la caserne. Il y avait les grands lampadaires, là, qui étaient sur le pont Sully, puis le boulevard Henri IV, et qui versaient une lumière blafarde. On aurait cru que c'était une ville qui était abandonnée complètement, que les gens avaient fui devant une invasion. Et je suis rentré à la maison, et le soir, je suis descendu aux nouvelles. Je n'avais pas la radio. Je n'avais pas la radio parce que je préparais le concours de la direction. Et à ce moment-là, le soir, c'est mon épouse qui me posait des questions, qui me faisait plancher. Alors, je suis descendu vers 8 heures. Et dans la rue, pour avoir Paris Soir. Car à ce moment-là, c'était Paris Soir. Alors, ou l'intransigeant, l'un ou l'autre. Et alors, dans la rue, j'ai croisé un homme qui courait, qui m'a dit « Vous savez, on se bat sur la place de la Concorde. » Et je n'ai pas pu avoir de journal. Et je suis entré à la maison, j'ai dit « Tu sais, ça va vraiment mal. » Alors, j'ai donc su le lendemain par les journaux, et puis j'ai su aussi par les élèves, dont les pères étaient... Alors, ils m'ont dit qu'il y avait des lames de rasoir au bout de... Il y avait des... Ils avaient mis des lames de rasoir sur des morceaux de bois. Ils lançaient des billes pour déstabiliser les chevaux. Enfin, toutes sortes de choses. Alors, il y a eu 18 morts. Et puis alors, il y avait quelque chose. Il y en a qui bombardaient. Ils étaient sur la terrasse des Tuileries. Et puis alors, les arbres étaient protégés par des grilles. Vous savez, quand on arrose. Bon, et puis alors, voilà. Alors, ils avaient cassé ces... ses plaques, n'est-ce pas, ses grilles, et pan, il lançait ça à toute volée sur les gardes républicains. J'ai indiqué qu'il y a un père d'élèves qui était adjudant, il est revenu, il a été blessé. Il a été blessé, c'est son cheval qui l'a ramené. Il l'a ramené comme ça, il a senti que son maître, le cavalier, ne le tenait plus en main. Il a ramené ce garçon, son cavalier, à la caserne. Alors, après, dans la famille, nous avons toujours été de profonds républicains. Non pas des républicains à l'eau de rose, vous savez, mais quelque chose de bien affirmé, parce que j'ai un grand-père qui a été chassé de l'école des arts et métiers de Châlons sous Charles X parce qu'il était républicain. Et alors ce grand-père, il a fait les journées de 1830, là, lorsqu'on a supprimé la liberté de la presse, et il a été aux obsèques du général Lamarque, qui était un général républicain, et c'était un républicain 100%. Et mon père était républicain, alors là, vraiment. Et il nous disait, lorsqu'il y avait les élections, il mettait son beau complet, là, le beau complet des jours du dimanche. Et on sentait que c'était un acte solennel qu'il allait accomplir. Il nous avait dit, mes enfants, quand vous serez en âge de voter, votez toujours. Ne vous abstenez jamais. Car si vous saviez combien d'hommes ont perdu la vie pour avoir ce bulletin de vote, pour avoir le droit de se mêler à la politique de leur pays. Alors, bien sûr, moi, le 9 et le 12 février 1934, j'ai quitté ma classe. J'étais inscrit au tableau pour passer la direction d'école. Je risquais d'être rayé, je risquais d'être révoqué, car le droit de grève, le syndicalisme d'ailleurs, n'était pas reconnu aux fonctionnaires. Bon, alors, j'y suis allé place de la République. Mais non seulement mais j'ai écrit au directeur de l'enseignement par la voie hiérarchique. J'ai dit, monsieur le directeur, j'ai fait grève pour telle et telle raison. La République était en danger. J'ai pensé que je devais faire quelque chose. Je n'ai donc pas fait ma classe le 9 et le 12. Mais nous avions un directeur de l'enseignement qui était un républicain aussi, et il n'a pas envoyé la liste, parce qu'on lui a demandé la liste au ministère, et il n'a jamais fourni la liste. Ces deux jours de grève ont eu pour moi une suite. J'avais remarqué depuis quelque temps qu'un agent se promenait devant la porte de l'école, de la rue Saint-Louis en Lille. Je lui dis, tiens, il se promène là. Et je reçois un pneumatique, ça n'existe plus les pneumatiques, mais il y avait les pneumatiques à ce moment-là, un pneumatique de mon inspecteur me priant de venir le voir dans une école du 16e arrondissement où il allait faire des inspections. Alors j'arrive tout de suite et il me dit, monsieur Bled, avez-vous remarqué qu'il y a un agent devant la porte de l'école ? Je dis, oui, en effet, j'ai remarqué. Eh bien, c'est un agent qui vous protège. Quand vous rentrez chez vous, il vous suit pour vous protéger. Et il vous attend à la porte de votre maison et vous ramène à l'école. Et toutes les fois que vous avez cet ange gardien. Alors je lui dis, ah, mais pourquoi, monsieur l'inspecteur ? Eh bien, nous avons eu, la police a pu avoir la liste de 20 enseignants, et ces enseignants doivent être attaqués dans leur classe par des groupes, c'était peut-être la Solidarité française, et on va vous matraquer, on va vous déshabiller, on va vous passer au minium, et on vous prendra vos vêtements. Voilà. Alors, évidemment, je suis revenu à l'école et...
Édouard Bled, vous n'avez jamais su pourquoi vous avez figuré sur cette liste noire de fascistes.
Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est que j'avais fait grève le 9 et le 12, et que l'on pensait que j'étais franc-maçon. Mais, c'est curieux, le directeur était grand maître, et moi, je n'étais pas franc-maçon. Je n'ai jamais été franc-maçon. J'aurais pu l'être, remarquez, mais je n'étais pas. J'étais au syndicat des instituteurs, j'avais un petit rôle, j'étais conseiller syndical, j'avais eu une mission, je trouve que c'était bien comme ça, j'avais pas besoin d'aller chercher autre chose. Alors, je n'étais pas franc-maçon. Alors, ça s'est passé, je l'ai dit dans ma classe, j'ai dit, vous savez, il est possible qu'il y ait des imbéciles qui viendront dans la classe et qui essaieront de me donner des coups. Alors, voilà ce que l'on va faire. Vous allez, les premiers, dès qu'ils seront rentrés, hein, vous les laissez rentrer. Bon, une fois qu'ils sont rentrés, vous poussez tous, c'était des grands gars, il y en avait qui avaient 14, qui avaient 15 ans, vous pousserez vos tables tous contre la porte, hein, vous allez faire un barrage, ils ne pourront plus s'en aller. Et à ce moment-là, moi, je m'en occupe. Et puis alors, ceux qui sont dans la classe, au fond, vous allez ouvrir la porte et vous crierez au secours dans le couloir. Les collègues étaient prévenus et ils seraient venus à mon secours. Alors, j'ai raconté ça à mes élèves. Est-ce qu'il y en avait un qui a-t-il eu quelque chose? J'en sais rien. Ça m'étonne beaucoup. Ou alors ils l'ont raconté dans la rue à d'autres qui, eux, étaient peut-être dans le coup, à quelqu'un qui était dans le coup. Mais je n'ai... Alors ça, ça a été fini. Alors, mais j'avais dans ma poche un coup de poing américain. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un coup de poing américain. J'avais un coup de poing américain. Il était toujours dans ma main. Là, mon poing et mon poing dans ma poche. Si j'avais sorti mon coup de poing, je fendais la tête de celui qui m'aurait attaqué. Mais il n'y a rien eu, alors tout s'est passé comme ça. On est arrivé à 36 et il y a eu le Front populaire.
Édouard Bled, cette période 34-36 était une période si violente, affrontement dans les rues, entre républicains et fascistes. Vous étiez donc sur une liste noire de fascistes que les fascistes avaient élaborée.
Mais j'ai été, certainement. Je vous dis, il y avait une liste de 20 qu'on devait... C'était d'ailleurs le principe des fascistes, de déshabiller les gens et de leur faire boire de l'huile d'oricin, c'était ça. Alors on m'en aurait badigeonné avec du minium, on m'aurait fait avaler de l'huile d'oricin, mais ils auraient eu du mal quand même, parce que j'étais assez costaud et je crois qu'ils auraient eu du mal.
Alors, vous avez des amis à qui c'est arrivé ?
Bien non, il n'y en a pas eu du tout de l'enseignement, parce que... Comme j'étais au conseil syndical, on se réunissait au moins deux fois par mois, j'aurais su... Je l'avais dit aux copains, j'avais dit, hein, voilà ce qui se passe, Bon, ben, t'en fais pas. Alors, il ne s'est rien passé pour moi, et les autres non plus, je crois.
À la même époque, c'est dans les joies et les exigences de la paternité qu'Edouard Bled prépare le concours de la direction d'école à Paris. En février 1936, il est reçu et a un très bon rang. Il est le plus jeune directeur d'école de Paris. C'est à ce moment-là qu'avec Odette Bled, sa femme, il se prépare à un grand projet d'enseignement de l'orthographe. Seulement, les événements politiques vont l'interrompre. Le Front populaire va servir de toile de fond à cette activité fébrile qui préparera les fameux Manuel Bled.
Ça a été des heures exaltantes. Vous aviez les gens qui partaient, ils avaient des paniers où ils avaient des provisions, ils étaient accompagnés par des parents, avec des accordéons, avec la vielle, et tout le monde dansait, tout le monde chantait. On ne peut pas savoir que ces choses-là restent dans l'esprit gravées, parce que ça a été des heures exaltantes. Vraiment très belles heures.
Vous écrivez à ce propos qu'on se dépêchait d'être heureux sous la menace permanente de la guerre avec l'Allemagne.
Ah, ça c'est sûr. Nous étions dans le Nord quand Hitler a réoccupé la Rhénanie. C'était au mois de mars, je crois. Enfin, c'était aux vacances de Pâques, 1936. Et nous étions à Lille. Et les gens de cette région n'ont pas été surpris du tout parce que les Allemands avaient dit en partant qu'ils reviendraient. Alors ça n'avait pas surpris. Mais ce qui nous a surpris, c'est qu'on les laisse rentrer.
La France n'était pas prête à cette guerre.
Les Français se croyaient vraiment à l'abri derrière la ligne Maginot. Alors, il se laissait aller un petit peu, comprenez-vous.
Vous êtes enseignant à Paris pendant l'occupation allemande. Et pendant cette occupation, vous voyez les Juifs porter l'étoile jaune.
Oui,
vous voyez tout ce qui leur est interdit. Vous voyez, quand on emmène les enfants visiter le musée, vous leur dites de...
Ah oui, interdit, bien sûr. On leur disait, cache ton étoile, les copains étaient là autour pour que je ne vois pas, bien sûr.
Pendant toute cette guerre, vous étiez enseignant. Comment vous réagissiez en face des difficultés de vos élèves? Certains d'entre eux disparaissaient, emmenés par les Allemands. Vous expliquez ça à ceux qui restaient?
Bien, les enfants, il n'y avait pas besoin d'en parler. Ils avaient bien tous vu. Mais ce qu'il y avait, c'est que certains enfants apportaient une fleur qu'ils mettaient à la place d'un élève qui avait été emmené. C'était une pensée pour celui qui n'en reviendrait pas. C'était beau comme... C'était émouvant, ça.
Édouard Bled, comment ça vous est venue l'idée, alors ensuite, de faire un livre d'orthographe?
Le livre d'orthographe n'est que l'aboutissement de ce que nous faisions. Nous faisions ça en classe. Nous remarquions les fautes qui étaient faites par le plus grand nombre d'élèves. Et nous nous disions que ce n'était pas par hasard que les fautes étaient faites, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Alors c'est ce qu'ils n'avaient pas compris que nous avons essayé de trouver. Et c'est comme ça que petit à petit, le livre, l'orthographe s'est formé. Souvent, ça venait que le maître n'avait pas été assez clair dans son explication. Alors donc, c'était au maître de reprendre et d'expliquer.
Au bout de ces années de pédagogie, vous avez appris tellement de choses à vos élèves. Est-ce que vous avez l'impression que cette œuvre se continue aujourd'hui ou que l'enseignement s'est dégradé?
Oui, mais il y a encore des instituteurs qui enseignent selon les principes d'autrefois, c'est-à-dire apprendre à lire, c'est-à-dire non pas seulement à déchiffrer, mais à comprendre ce que l'on lit, à écrire avec le moins de fautes possible et à rédiger. Et à compter, c'est-à-dire bien faire ces quatre opérations, mais aussi à raisonner. Voilà. Alors, ces choses-là étant acquises, ils peuvent construire tout ce qu'ils veulent d'original. Ça se passe encore comme ça. Il y a encore des maîtres qui font ça. Et dans ces classes-là, les élèves ne font pas de fautes, ou ils en font très peu. Dire qu'ils n'en font pas du tout, ce serait excessif, mais ils n'en font pas beaucoup.
Édouard Bled, tout au long de votre vie, vous avez chanté et puis vous avez appris à chanter à des jeunes.
Bien sûr, j'ai chanté.
La chanson vous a accompagné, toujours.
Ah, les chansons, c'était les compagnes de la vie. On pourrait écrire une histoire de France avec les chansons, parce qu'à chaque époque correspond une chanson.
Est-ce que vous voulez vous rapprocher, Madame Bled, là, parce que est-ce que vous voulez tous les deux chanter une chanson pour terminer?
Parce que...
La chanson que vous voulez, oui, tous les deux, vous allez vous mettre là.
Tu veux chanter quelque chose?
Est-ce que tu veux chanter La Bretagne?
Ah oui, si vous voulez.
Ah, quelle est belle ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir, elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Qu'il est doux de sentir la brise venir loin avec les flots, la brise... Fais-le, Mamina.
Fais-le.
La brise venant du large avec les flots.
Mémoire du siècle avec Édouard Bled. C'était une émission d'Antoine Spire et d'André Petit. On peut consulter le livre d'Édouard Bled, écrit avec la collaboration de sa femme Odette Bled, « J'avais un an en 1900 », aux éditions Fayard. La prise de son est assurée par André Hautser, le mixage Antoine Lehambre. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 mai 1987. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.